Arsène Houssay, il ne faut jurer de rien. Qui ne connaît le banquier Karl Oberbach, venu pauvre à Paris il n'y a pas longtemps, ambassadeur extraordinaire de M. de Bismarck, comme von Berger et autres bons hommes de Francfort ou de Hambourg qui font les gentils hommes à la Bourse de Paris. M. de Bismarck leur a dit « Allez, mes enfants, la France ne vous a donné que 5 milliards, mais il n'en faudra pas beaucoup comme vous pour achever la ruine de nos voisins. » Une fois en France, ces bons hommes, plus ou moins barons, se sont figurés qu'ils étaient princes chez nous parce qu'ils avaient les mains pleines d'or parisien. Comme, grâce à Dieu, ils ne sauront jamais le français, ils se sont dit entre eux « Nous sommes quelques-uns, croyant dire, nous sommes quelqu'un. » »« Oui, bons hommes de Francfort et de Hambourg, vous êtes quelques-uns, vous avez continué les exploits des grands chemins, moins la bravoure de M. de Cartouche. Mais ceci ne vous empêche pas d'avoir chez nous pignon sur rue et de nous prendre nos femmes, celles qui se vendent, par le mariage ou à côté du mariage. » Karl Oberbach ne s'était payé qu'une maîtresse. Était-ce si joli qu'il est laid ? Les extrêmes se touchent dans le pays de l'amour comme partout. C'est d'ailleurs la loi de la nature. La maîtresse du banquier lui donnait des leçons de savoir-vivre et des leçons de français. Une belle Hollandaise, que je félicitais de parler le français des Parisiennes, me répondait en souriant « C'est le français qui a appris l'amour, et c'est l'amour qui m'a appris le français. Mais Karl Oberbach aura beau faire, il n'apprendra ni l'amour ni le français, même avec une adorable créature comme Lily. » Son nom de famille est très connu. Lily s'ennuie dans ce somptueux hôtel de la place de l'Étoile, tout rempli de sa grâce, de son babil et de ses chansons. « Quoi, direz-vous, une si jolie fille avec un pareil malotru ? Quoi, des chansons devant ce bonhomme qui ne fait que compter son argent ? Eh, mon Dieu, oui, la femme s'arrange de tout, sous une pluie d'or et devant un miroir. » Lily est emprisonnée par ce geôlier qui croit que l'Arc de Triomphe n'a été élevé que comme point de vue de son hôtel. Mais il n'y a point de prison pour le cœur. Une comédienne, ancienne amie de Lily, vint la voir un matin. « Oh, Lily, comme tu es heureuse d'habiter un pareil hôtel dans un luxe inouï !»« Heureuse, oui, heureuse à en pleurer !» répondit la maîtresse du baron. La comédienne lui sauta au cou. « Eh bien, je te comprends. N'est-ce pas que les vanités n'étouffent pas le cœur ? Et pourtant, voilà une bien jolie cage pour une gentille fauvette comme toi. Est-ce que tu chantes toujours ? Oui, quand je chante, je ne pense pas. Et puis j'espère bien rentrer au théâtre. Ou rentrer dans ton amour. Bon, tu le connais bien. Avec lui, c'est le bonheur qui traîne la misère. Qu'est-ce que cela fait si c'est la misère dorée et adorée ? Et puis tu l'aimais tant. Oui, mais n'est-ce pas lui qui m'a abandonné ? Et Lily cacha une larme. Les amis du bonhomme, qui le savent embrancher dans les caprices d'une femme à la mode, se moquent de lui à sa barbe éteinte. Mais il leur proteste qu'il est aimé pour lui-même. D'ailleurs, dit-il en leur montrant une petite clé d'argent, voyez plutôt, voici la clé du cœur et de la chambre à coucher. Lily est baronne à peu près comme il est baron. C'est lui qui, en la prenant sous son toit, lui a donné ce titre pour imposer à ses gens. Monsieur le baron ne pouvait pas déchanter, il fallait bien que madame fût baronne. « Vous ne perdez jamais votre clé, » dit un jour à maître Karl, un de ses camarades de bourse. « Oh, je perdrais plutôt ma fortune. » Songez que, si je n'avais pas ma clé, quand je rentre passé minuit, la petite baronne n'ouvrirait pas. Quelle joie pour elle d'entendre bruire dans la serrure ce petit passe-partout d'argent. Et si un autre avait la clé, ce serait un passe pour tous. Je vous dis que c'est un dragon de vertu. Comme c'est commode de sortir des brouillards du Rhin ou de la mer du Nord, et comment l'avez-vous capturé? Ben, elle était allée chanter en Amérique, à son retour, je l'ai enlevée. À la force du poignet, combien y avait-il d'or dans la main? Pas un sou, mon ami. Et le banquier fit une pirouette de talon rouge. Comme il est voué au ridicule, il glissa et roula comme un tonneau. Quelques jours après, Obermarck était au cercle. On soutenait avec impertinence que toute femme douée du démon parisien devait succomber à la tentation. Ah, excepté celle de Karl, dit le camarade du banquier. Est-ce qu'il vous a mis dans son jeu? Demanda un malin. Le banquier leva la tête. Mais vous parlez de ma femme, la connaissez-vous? Ah non, d'abord, ce n'est pas votre femme, c'est votre maîtresse. Ben, si elle est ma maîtresse, elle est ma femme. Je parie 10 000 louis qu'elle ne passera pas sur un balcon pour écouter vos sérénades. Un joueur effréné prit gravement la parole. 10 000 louis, oh, c'est pas la mort d'un homme, c'est un coup de carte. Eh bien, je tiens le pari, si vous voulez, mais à la condition de passer la main. Oh, vous, les vôtres, vous pouvez dresser vos embûches. Messieurs, vous êtes témoins. Le banquier se récria. Mais nous n'avons pas besoin de témoins, notre parole vaut de l'or. Oui, une poignée d'or, mais pas 10 000 louis. L'homme et l'affaire, j'en ai gagné 100 fois autant contre l'Union Générale. Eh bien, je joue contre l'Union Conjugale. C'est dit, même si vous passez la main à Parisis ou à Alfonso ou à Carolus ou au Prince. À cet instant, on vit apparaître un jeune homme blond, gardenier à la boutonnière. Sourire aux lèvres, bien sculpté pour les batailles de l'amour. Et voilà mon homme, pensa celui qui avait parié contre la vertu de Lili-Lalouette. Il se leva et entraîna le nouveau venu dans un autre salon. Veux-tu gagner 200 000 francs? Oh, toujours. Eh bien, mets-toi en campagne et enlève Lili-Lalouette. Mais c'est impossible. Pourquoi? Ben parce qu'elle aime mieux l'argent que l'amour. Et le jeune homme se dit en soupirant, après avoir mieux aimé l'amour que l'argent. L'autre avait entendu. Allons donc, ne vas-tu pas faire des manières? Songe, mon cher ami, que je viens de parier 200 000 francs que Lily se laisserait prendre d'assaut. Tu la prendras par toutes les roueries du cœur, car le cœur est encore plus malin que l'esprit. Or, tu aimes Lily. En campagne, morbleu, 100 000 francs, c'est quelque chose pour un homme qui n'a pas le sou. Comment 100 000 francs? Tu disais 200. Non, nous partagerons, je ne parle pas de Lily. Mais pourquoi partagerions-nous? Ben, n'est-ce pas moi qui ai parié? N'est-ce pas moi qui perdrais si tu ne triomphais pas? Pourquoi Monsieur Alphonse, connu dans le monde littéraire par un pseudonyme sonore, était-il en avril 1883, rue de Tilsit, en face d'un des hôtels massifs que les embellissements de Paris doivent au lourd crayon de l'architecte Itthoff? Il ne faisait pas un temps à se promener là, sans parapluie, et déjà 2 giboulées avaient éclaté sur l'Arc de Triomphe. Alphonse s'abritait comme il pouvait, sous les appuis des fenêtres, tout en se tordant les moustaches avec impatience. Il ne fallait pas beaucoup de pénétration pour deviner un amoureux qui attendait un signal. Mais les croisées étaient impassibles, pas une ne s'ouvrait pour lui dire bonjour. Il y a des maisons qui sourient comme il y a des maisons qui pleurent. Celle qu'Alphonse dévorait des yeux semblait dormir. À la 3e giboulée, il frappa du pied et décida qu'il n'attendrait pas plus longtemps. Mais sans doute il vit remuer un rideau, car il leva son mouchoir en signe de joie. Il rentra chez lui et se mit à écrire cette lettre d'une main fiévreuse. Lily, Lily, je meurs de ne pas vous voir, car je n'appelle pas cela vous voir quand vous passez au bois ou sur le boulevard avec cet homme qui est un geôlier. Lily, souvenez-vous, avez-vous oublié ces jours rapides où vous étiez heureuse quand je vivais à vos pieds? Ne t'ai-je pas aimé avec idolâtrie? N'est-ce pas avec toi que j'ai mangé mes 4 sous en te faisant princesse pendant 6 semaines? Est-ce ma faute si la fortune m'a mise à pied quand j'étais si heureux, niché avec toi dans ce petit coupé qui était encore le lit nuptial? Oh, les doux propos! Tu commençais à chanter un grand air d'opéra que j'étouffais sous mes baisers. Tout cela s'est évanoui comme un rêve. Dieu m'est témoin que j'ai tout tenté pour devenir directeur de la Banque de France. Un peu plus, je faisais de la fausse monnaie. Oh, n'avoir pas d'argent et vivre dans l'enfer du luxe avec une femme qui veut des diamants. On dit que je suis un homme d'esprit, mais je ne suis qu'une simple bête, puisque je n'ai pas le génie de changer de carte dans le jeu perpétuel qui s'appelle la vie. Lily, ma Lily, de grâce, reviens à moi, ne fût-ce que pendant 1 heure. Je meurs de t'aimer, je meurs de ne pas te prendre dans mes bras. Je t'attendrai toute cette nuit à l'hôtel d'Albion. Si tu ne dois plus être à moi, viens au moins me le dire par un dernier baiser. Alphonse. À cette lettre, Lily ne répondit pas. Ce jour-là, Alphonse la rencontra au bois comme tous les jours. Elle regardait de l'autre côté. Non pas cependant du côté du banquier, qui n'était pas loin de là. La dignité de ce bonhomme l'empêchait de se faire traîner dans la même voiture que sa maîtresse. Mais il l'accompagnait au bois à sa manière, lui lançant des œillades idolâtres et fronçant le sourcil chaque fois qu'il voyait ses yeux en conversation criminelle avec un sportsman à cheval. Car il était jaloux comme le Rhin allemand des sources vives du vin de Champagne. Alphonse, sans s'inquiéter du banquier, jeta un bouquet de violettes dans le landau de Lily l'Alouette. Sans s'inquiéter du banquier, elle prit le bouquet et le respira en toute effusion de cœur. Alphonse fut si heureux qu'il en devint tout pâle. Enfin, elle embrassait les violettes qu'il avait baisées lui-même. On était au bout de l'avenue des Acacias. L'amoureux rencontre le parieur, qui lui dit en lui offrant un cigare. « Eh bien, notre pari ?»« Oh, notre pari va bien, je vais trouver ton cigare exquis. »« Ah, tu as parlé à la dame ?»« Non. » »« Tu lui as écrit et elle t'a répondu ?»« Non. » »« Eh bien alors ?» Alphonse était si heureux qu'il avait peur en parlant de faire évanouir son bonheur. Mais comme le parieur insistait, « Bien voilà où j'en suis. Je lui ai écrit ce matin une lettre à attendrir les rochers. Tout à l'heure, je lui ai jeté un bouquet, il y a mis ses lèvres en me souriant. « Bravissimo, bravissima! Je n'attendais pas moins de toi et de Lily. En avant, à la baïonnette !» Mais là, je la connais, celle-là ne se laisse pas enlever tambour battant. Ah, nous ne pouvons pas remettre notre pari au calendrier grec. Ne vas-tu pas tomber dans un amour platonique ? La dame repassa devant Alphonse, et elle respirait encore le bouquet de violettes. Le lendemain, à l'heure de la bourse, la petite baronne envoya chercher un serrurier de monsieur le baron. Le lendemain, à l'heure de la bourse, la petite baronne envoya chercher un serrurier de monsieur le baron. « Madame, le serrurier est là, que faut-il lui dire ? Dites-lui que j'ai perdu la clé de mon chiffonnier. » Il n'y avait pas un mot de vrai dans ces paroles. Le serrurier entra. Lily lui dit de fermer la porte Après quoi elle le pria de lui faire une petite clé d'argent, toute pareille à celle qu'il avait déjà ciselée. Que voulait faire Lily de cette petite clé? Son protecteur avait-il perdu la sienne? Quelques jours après, le banquier dînait dans le faubourg Saint-Germain. Place à table, au milieu de quelques grands seigneurs désargentés, ne lui coûtait guère qu'une centaine de mille francs. Tout se paye à Paris, non pas l'honneur, mais les honneurs. Or, pendant qu'il dînait en si bonne compagnie, Lily dînait seule en toute hâte. En moins d'un quart d'heure, il eut touché à tout d'une lèvre dédaigneuse. Après quoi, elle descendit, un livre à la main, sans dire où elle allait. Le savait-elle bien? Elle traversait une de ces phases critiques où les femmes donnent un croc en jambe à leur destinée. Pourquoi le livre à la main? Parce que le livre est un bon compagnon de voyage, même s'il est mauvais. Et puis elle n'avait pas pris un livre pour lire. À peine à 50 pas de son hôtel, elle rencontra l'homme au bouquet de violettes. « Oh, c'est toi, ma Lily !» Un peu plus, Alphonse la prenait dans ses bras. « Chut !» dit-elle. « Monsieur Karl Oberbach a 100 lieues. »« Oui, mais j'ai là un bon fiacre, nous serons chez nous. » Et il entraîna Lily. Devant le sapin, elle fit un pas en arrière. Il y avait longtemps qu'elle ne montait plus que dans des voitures de maître. Elle avait peur que cet affreux fiacre ne fût plus pour elle la roue dorée de la fortune. Mais l'amour jeta ses jolies bottines sur le marchepied. Et ce fut un quart d'heure délicieux. On s'était aimé follement, on s'aimait plus follement encore. Mais je n'ai jamais aimé que toi, Lily. Mais je ne gérerai jamais que toi, Alphonse. Alors pourquoi vivaient-ils séparés, ces deux amoureux qui s'aimaient tant? Fallait-il donc qu'un pari de 100 000 francs les rejetât dans les bras l'un de l'autre? Cependant, une heure après, il fallait que Lily rentrât dans sa prison dorée. Elle donna une petite clé d'argent à Alphonse en lui disant « Écoute-moi bien, je ne t'écrirai pas parce qu'il me faudrait porter moi-même les lettres à la poste. Mais souvent, à l'heure du bois, nous nous rencontrerons. Et si un jour je mets mon éventail sur ma figure quand tu passeras, c'est que je serai seul le soir. Et le soir, à 10 heures, tu viendras sous ma fenêtre comme tu es venu un matin. Si j'agite un rideau, tu monteras au premier. Tu ne rencontreras personne, tu traverseras un salon. Ma chambre est à gauche. Tu ouvriras la porte avec cette petite clé, car une autre clé pareille n'aura emprisonné pour 3 heures, c'est-à-dire pour tout le temps où le bonhomme va faire le beau dans le monde. » Alphonse ne se fit pas enseigner 2 fois l'itinéraire. Le lendemain, la comédie commença, et en se quittant, les amoureux se dirent « La suite à demain. » Un peu plus, Alphonse, dans sa joie, ne disait rien à son ami le parieur. Enfin, il parla après 8 jours de bonheur. On décida qu'au premier rendez-vous, 2 témoins affirmeraient la vérité de l'histoire. Mais on n'eut pas besoin des témoins, car voici ce qui arriva. Un jour, en dînant, Karl Oberbach dit à Lily « Sais-tu pourquoi je ne suis pas gai? Noblesse oblige, je suis forcé de partir tout à l'heure pour le château du prince où il y a demain chasse à cour. » Or, le soir même, au cercle, on apprit que la chasse serait contremandée à cause du mauvais temps. Karl Oberbach rentra donc chez lui à l'heure coutumière. Il fut très surpris de trouver la petite clé d'argent à la serrure de la chambre à coucher de sa maîtresse. Il mit la main à sa poche, plus surpris encore d'y trouver la sienne. Il y avait donc 2 clés d'argent. Pourquoi pas? Sans doute Lily en avait une pour elle. Simple caprice, puisqu'elle la laissait à la porte. Le banquier ouvre la porte sans inquiétude. En croira-t-il ses yeux? Un homme est là, qui dort sur un canapé, pendant que Lily dort dans un fauteuil. La légende affirme même qu'ils dormaient tout près l'un de l'autre. Le banquier peut-il douter de sa mésaventure? Une femme qu'il a couchée sur l'or et qui le brave ainsi en plein minuit? Mais quel est donc cet insolent qui dort sur le rôti? Tout autre que le bonhomme eût jeté l'amoureux par la fenêtre. Mais Karl Oberbach eut peur. Si l'amoureux réveillé allait le jeter lui-même par la fenêtre? Il pouvait appeler ses gens, mais comment se donner ainsi en spectacle? Il rougit de sa lâcheté, il pensa à M. de Bismarck et se décida à affronter le péril. Il avança d'un pas vers le dormeur. Monsieur, que faites-vous là? Alphonse ouvrit les yeux et éclata de rire en voyant la mine effarée du bonhomme. Monsieur, mais pourquoi me réveillez-vous quand je dormais si bien? Le banquier recula d'un pas. Mais monsieur, je suis chez moi. L'amoureux avança d'un pas. Et moi, monsieur, je suis chez ma femme. Le banquier eut un cri déchirant. Sa femme! Lily s'était réveillée. Bon, Lily, quel est ce va-du-pied? La vérité est qu'Alphonse n'avait pas encore mis ses bottines. Lily, comprenant que tout était perdu ou que tout était sauvé, dit en le prenant de haut: Oui, monsieur, c'est mon mari. Il n'y eut plus de doute pour le banquier. Il perdait tout à la fois, sa maîtresse et son pari. Il fut si doux aux amoureux qu'un peu plus il leur abandonnait l'hôtel. Pendant quelques jours, M. Karl Oberbach n'osa retourner au cercle. Comment reparaître devant tous ces rieurs sans avoir lavé cette offense à son blason de barreau allemand? Mais une idée lui vint qui le décida à faire bonne figure au cercle. On le vit arriver un soir d'un air important. Eh bien, lui dit le parieur, vous m'apportez mes 200 000 francs? Alors, point du tout. Comment point du tout? Bon, non, je ne fais pas de façon pour avouer que cette coquine m'a trompé. Eh bien, c'était son mari.